mauvaise nouvelle, hein, on ferme les portes de la ville derrière eux. Alors nos espions ne sont pas sortis de l'auberge, c'est le cas de le dire. Mais c'est encore Rahab qui va avoir une idée lumineuse. Parce que sa maison, elle donne sur la muraille de la ville. Et il y a une fenêtre, une ouverture dans cette muraille. Et elle va avoir l'idée de faire descendre ces espions à l'aide d'une corde, hein, au milieu de la nuit. Ils vont pouvoir s'échapper de la ville avec son aide. Et non seulement ça, mais elle va encore leur donner un conseil très très précieux. Elle va leur dire, surtout n'allez pas vers le Jourdain, hein, mais allez dans l'autre direction, dans les montagnes, et vous y restez cachés pendant 3 jours, le temps que les services du roi reviennent à la ville, hein, pour pas que vous leur couriez dans les bras. Et c'est ce qu'ils font, et c'est effectivement cette stratégie qui est payante et qui les sauve. Mais avant de les congédier, Rahab va s'adresser à ses hommes et va leur dire la chose suivante. Je sais que l'Éternel vous a donné cette terre. La terreur de vous s'est emparée de nous et tous les habitants de cette terre tremblent devant vous. Car nous avons entendu que le Seigneur a asséché la mer des joncs devant vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Et ce que vous avez fait aux deux rois amorites au-delà du Jourdain, à Sichon et à Og, que vous avez voué à l'interdit. Nous l'avons entendu, notre cœur a fondu, et l'esprit de chacun ne s'en est pas encore remis, car le Seigneur, votre Dieu, il est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi devant le Seigneur, à moi qui ai agi avec bienveillance à votre égard, que vous aussi vous agirez avec bienveillance à l'égard de ma famille, et donnez-moi un signe qui l'authentifie. Vous laisserez la vie à mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, et à tous les leurs. Vous nous sauverez de la mort. Rahab a compris à qui Jéricho a affaire. Non pas seulement à ses Israélites dans le désert, mais au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À ce Dieu dont elle comprend qu'il règne dans les cieux et sur la terre. Alors comment est-ce possible que cette femme cananienne ait une telle compréhension de choses? Pour nous, avec le recul, c'est facile, mais pour elle, c'était moins clair. Je ne vois qu'une solution, celle que Jésus a dite à l'égard de Simon-Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. D'une manière assez mystérieuse, Rahab a compris ce qui se passe. Et elle croit en ce Dieu. Elle croit, et c'est exactement ce qui est souligné dans un des passages du Nouveau Testament qui évoque cette femme. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Elle est citée dans la longue liste des héros de la foi, comme on dit. Et il nous est dit, c'est à cause de sa foi que Rahab, la prostituée, n'a pas été détruite avec les rebelles parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. C'est à cause de sa foi, c'est par la foi qu'il a pu le faire. Mais vous voyez, ce n'est pas une foi abstraite, théorique, une croyance. C'est quelque chose qui se traduit dans les actes, hein, parce qu'elle a accueilli les espions avec bienveillance. Cette foi est agissante. Et Rahab, elle risque gros dans l'affaire. Si cette histoire se sait, elle risque sa vie. Mais c'est sa foi qui la pousse. Une foi agissante. Et dans un autre passage du Nouveau Testament qui évoque Rahab, c'est dans l'épître de Jacques, il nous est dit, vous voyez que l'homme est justifié par ses œuvres et non pas seulement par sa foi. Ainsi aussi, Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin? C'est sa foi agissante, cette foi qui se traduit en œuvre, qui l'a sauvée. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 2 de Josué. Et je voudrais qu'on fasse un grand bond vers le chapitre 5, vers la fin du chapitre 5, au verset 13. Le livre de Josué raconte d'autres choses intéressantes dans le chapitre 3, 4 et 5. Il raconte notamment la traversée du Jordan, qui est miraculeuse, qui rappelle la traversée de la mer par Israël. Il raconte également la circoncision du peuple. Apparemment, dans le désert, les Israélites n'ont pas été circoncis. Et puis aussi la Pâque, la première Pâque en terre de Canaan. Donc, des événements importants pour le peuple, mais qui n'ont pas vraiment trait à Jéricho. Et donc, nous retrouvons le livre de Josué au chapitre 5, au verset 13, où Josué lui-même fait une rencontre des plus étonnantes. Il rencontre un personnage inquiétant. Nous y lisons. Josué était à Jéricho. Il leva ses yeux et vit un homme qui se tenait devant lui, une épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Est-ce que tu es avec nous ou avec nos adversaires ?» Il dit, « Non, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Je suis arrivé maintenant. » Josué se jeta par terre sur son visage, il s'abaissa et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée du Seigneur lui dit, « Ôte les sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est sacré. » Josué s'exécuta. Jéricho était totalement fermé devant les fils d'Israël. Personne ne sortait ni n'entrait. Le Seigneur dit à Josué, « Regarde, j'ai donné entre tes mains Jéricho, son roi et sa puissante armée. » Cet étrange personnage que rencontre Josué, qui est-il? Il nous le dit, c'est le chef de l'armée du Seigneur. Mais Josué comprend tout de suite, quand il entend ça, qu'il a affaire à plus grand que lui. Et il se jette sur le visage. Et nous allons le voir, c'est l'autre qui prend maintenant le commandement des affaires, qui va donner des ordres à Josué. C'est le chef de l'armée du Seigneur qui va prendre les affaires en main. Et un peu plus tard dans le texte, je l'ai souligné ici, Josué parle toujours avec lui et il nous identifie comme Dieu lui-même. Quand ce personnage parle à Josué, c'est Dieu qui lui parle. Alors, nous voyons ça à d'autres endroits de l'Écriture. Nous l'avons vu ensemble. Si vous étiez là, la lutte de Jacob avec l'ange. On a un peu affaire au même genre de personnage parce que il nous est dit que Jacob a lutté avec l'ange, c'est Osée qui le dit, et ailleurs il nous est dit que Jacob a lutté avec Dieu, et le nouveau nom qu'il reçoit justement, il dit celui qui a lutté avec elle, hein, Israël. Donc il y a ici, les contours sont flous entre ce personnage-là, est-ce un ange, est-ce Dieu lui-même, on ne sait pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que quand ce personnage parle, c'est Dieu qui parle. Si ce n'est qu'un porte-parole de Dieu, c'est un porte-parole plénipotentiaire. Et ce personnage va maintenant donner des instructions à Josué. Il va lui dire comment ce siège va devoir se dérouler. Et c'est un siège des plus atypiques, ou en couleur, on pourrait dire un siège musical presque. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça qu'on menait les sièges, parce que l'instruction est que les fils d'Israël doivent se diviser en deux, enfin les soldats, diviser en deux, une avant-garde, une arrière-garde, et entre les deux, on met les prêtres qui soufflent dans les cornes de bélier. On met le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance si vous préférez, donc entouré de l'armée, et cette procession va faire le tour de la ville. Et peut-être se tenir après autour de la ville, c'est possible. Donc, aucun bruit, ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit, aucun cri de guerre, juste le bruit des trompettes. Et ça pendant 6 jours. Tous les jours, ils vont devoir faire le tour. Alors, je ne sais pas comment les hommes et les femmes de Jéricho ont vécu ça, Peut-être ils ont rigolé un premier temps, mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant. On ne sait pas ce qui se mijote. Hein, c'est curieux. Et puis le septième jour, on refait ça, mais cette fois-ci, sept fois le tour de la ville. Et après, ils doivent pousser un grand cri de guerre. Et c'est là, dit le chef de l'armée du Seigneur, c'est là que les murailles vont s'effondrer. Et là, vous y allez. Hein, vous y allez. Et vous mettez un terme à cette ville. Et ça se passe exactement comme ça. Les Israélites respectent à la lettre ce qui leur est dit. Ils font donc tous les jours ce tour, et puis le septième jour arrivé, sept fois le tour. Et puis, après ce septième tour, c'est Josué qui va prendre la parole. Il va dire quelque chose à ses troupes. Il dit, poussez le cri de guerre, car le Seigneur vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'interdit pour le Seigneur. Elle et tout ce qui se trouve en elle. Seule Rahab, la prostituée, vivra. Elle et tout ce qui est avec elle dans sa maison. Car elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, garde-vous de ce qui est voué à l'interdit. Pour pas que, après avoir voué à l'interdit, vous ne preniez quelque chose de ce qui est voué à l'interdit. Et rendiez le campement d'Israël voué à l'interdit lui-même. Provoquant ainsi un grand malheur en son sein. Tout l'argent, l'or, tout objet en bronze et en fer est consacré au Seigneur et entre dans le trésor du Seigneur. Et lorsque les Israélites poussent ce grand cri de guerre, effectivement, miraculeusement, les murailles de Jéricho s'effondrent, les habitants sont sans doute surpris, choqués, sans défense, hein, et Israël met en exécution son ordre de vouer à l'interdit la ville. Alors, cette notion de vouer à l'interdit qui est omniprésente dans ce texte, elle est extrêmement délicate à manier. Et je dirais, surtout dans une époque comme la nôtre, qui est hantée par les génocides, par les guerres saintes et ce genre de choses, on marche vraiment sur les œufs. Je n'ai pas le temps ni la volonté d'aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'il est trop complexe et il demande à être traité en soi. Ce n'est pas le moment aujourd'hui pour moi de le faire. Je voudrais juste vous dire que ces associations d'idées sont fausses, qu'en fait. Ce n'est pas la guerre sainte, en aucun cas, et ce n'est pas un génocide. Mais on traitera ça peut-être une autre fois. Ce qui est certain, c'est qu'Israël doit tuer tout le monde dans cette ville. Tout est détruit. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les vieux, toutes les bêtes, tout ce qui vit doit être tué. Et tout le reste brûlé, détruit. Et il y a des choses qu'on ne peut pas détruire, comme les métaux précieux. Et ces métaux précieux rentrent dans le trésor du Seigneur. En quelque sorte, on pourrait le comparer un peu avec les sacrifices, voyez. Dans les sacrifices, en général, il y a une part pour Dieu et une part pour Israël, pour les prêtres qui consomment. Mais il existe des sacrifices où tout doit être consommé, les holocaustes. Et ici, cette prise de la ville, contrairement à d'autres, qu'on verra par la suite, cette prise s'inscrit dans cette logique d'holocauste. Tout est offert en quelque sorte à Dieu, et du coup, tout doit être détruit. Plus rien doit rester et rien ne subsiste. Et Israël fait exactement ça. Enfin, en principe. Car il existe quelqu'un qui ne respecte pas la consigne. C'est un certain Akan, un membre de la tribu de Juda. Et Akan, il tombe sur un beau manteau. Parmi ce qu'il voit dans la ville, il trouve un magot, un beau manteau qui lui plaît bien, et puis un superbe lingot d'or et des pièces d'argent. Et l'envie est trop grande. Et il prend ça, ni vu ni connu, il cache ça, il l'enterre dans sa tente. Personne n'a rien vu, ça s'est bien passé. Parfait. Sauf que, l'histoire continue. Après la prise de Jéricho, la destruction de la ville, on continue la conquête. Et la prochaine étape, c'est la ville qui s'appelle Haï. Elle porte bien son nom parce qu'elle va être source de, de grandes douleurs pour Israël. On envoie des espions, des éclaireurs, et ils reviennent à Josué et ils disent « Bon, pas grand-chose. Donne-nous 2-3 000 personnes, pas la peine de fatiguer tout le monde, restez ici, donne-nous 2-3 000 gars, on va se la faire, pas de problème. » Josué entend ça, il dit « Ok, 3 000 personnes, vous en mettez un terme à cette ville. » Ils y vont et c'est la catastrophe, la débâcle. Il y a une quarantaine d'Israélites qui se font tuer, les autres prennent la fuite. C'est la débandade. Et Josué, quand il apprend la nouvelle, il est totalement à terre. Non seulement parce que ça rompt un peu l'élan de la conquête, alors qu'elle vient à peine de commencer. Non seulement elle va donner un encouragement aux Cananiens qui, Rahab nous l'a dit, sont dans une peur bleue. Mais là, on voit qu'Israël n'est pas imbattable. Mais surtout, ce que Josué comprend, c'est que Dieu n'est plus avec eux. Sinon, ça n'aurait pas pu se passer. Ce n'est pas eux qui avaient conquis Jéricho, c'est Dieu. Et maintenant, eux, ils se font battre. Donc Dieu n'est plus avec eux. Et il s'effondre, Josué. Et il, en bon oriental qu'il est, il se déchire les vêtements, il se met de la cendre sur la tête, il se prosterne devant Dieu jusqu'au soir, il implore Dieu, il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est là que Dieu va lui parler. Et il lui dit, lève-toi, pourquoi tu tombes sur ta face? Israël a péché. Ils ont transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux, pris des objets voués à l'interdit, volé, menti et mis ces objets dans leurs affaires. Les fils d'Israël ne pourront pas se dresser contre leurs ennemis. Ils devront tourner le dos face à leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes voués à l'interdit. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous n'exterminez pas les objets voués à l'interdit de votre sein. Lève-toi! Sanctifiez le peuple, dis-lui, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il y a des objets voués à l'interdit en ton sein, Israël. Tu ne pourras pas te dresser contre tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez enlevé ces objets voués à l'interdit du milieu de vous. Le matin, vous vous présenterez par tribu. La tribu que le Seigneur choisira se présentera par clan. Le clan que le Seigneur choisira se présentera par famille. La famille que le Seigneur choisira se présentera par homme. Celui qui sera choisi comme voué à l'interdit sera brûlé, lui et tous ceux qui lui appartiennent, car il a transgressé l'alliance du Seigneur et il a commis une infamie en Israël. Et c'est ainsi que Achan est démasqué. C'est d'abord la tribu de Juda qui est désignée, ensuite son clan, sa grande famille, et puis lui-même. Et il confesse sa faute et le jugement le frappe. Lui et tous les siens sont tués, leurs biens sont brûlés. C'est une des pages les plus pénibles à lire pour moi de l'Écriture. Une des pages les plus horribles qui soit. Mais il faut bien comprendre, ce qui frappe à Caen, c'est le sort de la ville. Il s'était approprié quelque chose de ce qui devait être détruit et du coup il s'est attiré sur lui-même la punition qui frappait Jéricho. Et il subit exactement le sort des habitants de Jéricho, c'est-à-dire la mort et la destruction de tous ses biens. Alors, que dire? Si j'ai choisi cette présentation en vol d'oiseau, que chacun de ces épisodes aurait pu être traité à part, c'est que je trouve que lorsqu'on regarde l'ensemble de ces événements, il y a un enseignement très puissant qui s'en dégage. Il y a une inversion phénoménale qui se joue là. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Rahab, la prostituée qui vit à Jéricho, elle vit. Et Achan, l'Israélite, il meurt. Pourquoi? Parce que Rahab a cru. et elle a agi en conséquence. Et Achan, il a agi d'une sorte qui traduit qu'il n'a pas vraiment cru. Vous avez là, sur une des premières pages de l'Écriture, dans le, je veux dire, 40 ans à peine après l'Exode, l'affirmation claire et nette de quelque chose qui va éclater dans la Nouvelle Alliance, à savoir le salut par grâce, gratuit, par le moyen de la foi. Et cette inversion est encore accentuée par la nature même des acteurs en présence. La personne qui est arrachée à la mort, pour un observateur de l'époque, elle a tout pour déplaire. Déjà, c'est une femme. Ensuite, c'est une Cananéenne, un peuple voué à l'interdit. Et puis, c'est une prostituée. Et de l'autre côté, vous avez un homme, un Israélite, un guerrier dans une conquête ordonnée par Dieu. C'est la pute cananéenne qui vit. Et c'est le guerrier israélien qui meurt. Quelle incroyable inversion. Et non seulement elle vit, mais si vous connaissez le début de l'évangile de Matthieu, vous apprenez que non seulement cette femme vivra, mais elle aura une place dans le peuple d'Israël. Et non seulement une place, mais une place de choix, parce qu'elle va être une des ancêtres du roi David et par là même de notre Seigneur. Alors quand on contemple ça, il s'en dégage, me semble-t-il, un énorme espoir et un sérieux avertissement. La foi agissante redistribue les cartes. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, quelle que soit la gravité de tes actes, tu peux vivre, tu peux être sauvé, si tu mets ta confiance en Dieu et si tu vis en conséquence. Dieu ouvre grand les bras, même aux putes. Et en même temps, il y a un avertissement sévère. Qui que tu sois, quel que soit ton arbre généalogique, quels que soient tes exploits, quelle que soit ton affiliation ecclésiastique, tu ne vivras pas si tu désobéis, si tu ne crois pas. Tout ce que tu as n'a servi à rien si tu montres par ton comportement que tu n'ajoutes pas foi à la parole du Seigneur. Je ne vous apprends rien en disant ça. Presque sur chaque page de l'Évangile, nous avons cette affirmation. Mais vous l'avez là, déjà, tout début de la première alliance. C'est quand même assez surprenant. Dès avant la conquête de Canaan, c'est ça le projet de Dieu. Le juste vivra par la foi. Mais creusons encore un petit peu. Car entre ces deux récits qui opèrent cette inversion, Rahab qui vit, Achan qui meurt, vous avez cet autre personnage, et il me semble que c'est là que se joue le pivot. Et je vois le pivot de l'histoire même dans le petit mot « non ». Alors ça peut vous paraître un peu ésotérique, mais je m'explique. Josué y voit ce personnage. Et lui dit « Est-ce que tu es avec nous ou avec les autres ?» Et c'est Dieu. Et Dieu dit non, je ne suis pas avec vous ni avec les autres. Et c'est exactement ce que nous voyons dans le récit de Rahab et de Achan. Parce qu'ils sont dans un camp chacun. Elle, a priori, dans le mauvais camp. Lui, a priori, dans le bon. Elle, dans le camp qui va être détruit. Lui, dans celui qui va triompher. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Mais ce qui est important, ce n'est pas dans quel camp ils sont. Ce n'est pas ça qui détermine leur sort. Ce qui détermine leur sort, c'est comment ils se situent par rapport à Dieu. Et lui qui est dans le camp d'Israël, il sera perdu. Elle qui est dans le camp de Jéricho, elle vivra. Parce que Dieu n'est pas dans un camp ou dans l'autre, voyez-vous. Quand Josué lui dit, il ne sait pas que c'est Dieu. C'est pour ça que sa question n'est pas mal placée, mais au fond, la question est mal placée. Dieu n'est pas dans un camp, ni dans l'un ni dans l'autre. Ce qui est important, c'est d'être dans le camp de Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que on est tous constamment tentés, et notamment dans nos conflits, de mettre Dieu dans notre camp, de l'embrigader derrière nous. Et ça, il ne faut pas le faire. Parce que Dieu, il dit non. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos. On peut voir ça sur le niveau personnel. Il y a longtemps, j'avais un conflit avec un pasteur. Et il m'a reproché vertement mon comportement. Et il n'avait pas totalement tort. Si c'était à refaire, je ne ferais pas comme j'ai fait. Mais en tout cas, pour me le reprocher, il a sorti une comparaison biblique. C'est bien. Et en fait, sa comparaison biblique, c'était lui, c'était Jésus, et moi, j'étais Judas. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Tu mets Dieu dans ton camp, c'est Dieu contre le diable, c'est l'homme-Dieu parfait contre le traître par excellence. C'est exactement ça, Dieu est avec moi. Et quand vous mettez Dieu dans votre camp, tout devient facile parce que vous avez raison. Et vous pouvez tout faire parce que Dieu est avec vous. Est-ce que tu es avec nous, avec nos adversaires? Et Dieu dit non. On peut voir ça dans les conflits d'église. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un conflit d'église. J'en ai vu un petit peu. Et fatalement, arrive un moment dans ces conflits où l'un des deux parties, voire même les deux, embrigadent Dieu derrière eux. Parce que Dieu est avec eux. Et c'est là que ça devient insoluble. C'est un grand classique à ne surtout pas suivre. Et si vous êtes dans un conflit de ce type, veillez sur vous-même pour ne pas tomber dans ce piège. Et on voit ça aussi dans l'histoire. Si on prend un cas qui nous touche aux tripes, quelque part, l'extermination, la persécution des Huguenots sous Louis XIV par les catholiques en France. Aujourd'hui, nous voyons à quelle catastrophe c'était, y compris pour la France. Quelle fuite de cerveau et de talent. Mais quand vous lisez les textes, ces gens, ils avaient la meilleure des consciences. Ils faisaient ça au nom de Dieu, bien entendu. Mais franchement, Dieu est-il catholique ou protestant? Posez la question, même montre son imbécilité. Il est au-dessus de nos chapelles. Est-ce que tu es avec nous, avec nos adversaires? Il dit non. De même en géopolitique, je l'ai déjà raconté ici une fois, mais il y a longtemps, je lisais la feuille de chou de la Fédération, à l'époque elle s'appelait Construire ensemble, il y avait des articles intéressants où des églises se présentaient. Et j'ai failli tomber de ma chaise en lisant une présentation d'une église où elle racontait sa vie, et puis elle disait, et par ailleurs, nous soutenons inconditionnellement l'État d'Israël. Je lui ai dit, mais ça ne va pas la tête. Voyez-vous, il y a des chrétiens, et ce n'est pas si rare, qui ont choisi leur camp dans ce conflit qui pourrit la vie du monde, ce conflit israélo-palestinien. Ils ont choisi leur camp, et ils ont logé Dieu dedans. Dieu y est avec Israël. Et du coup, tout ce que fait Israël, même des horreurs, c'est bien. Et tout ce que font les autres, c'est du diable, quoi que ce soit. C'est facile, la lecture des choses, avec un modèle comme ça. Nous pourrions en parler longuement, mais je crois, au fond, c'est ça. Est-ce que Dieu est avec nous ou avec nos adversaires? Et Dieu dit non. si l'État d'Israël se comporte d'une manière qui déshonore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous n'allez pas me dire que Dieu est avec eux. Et les prophètes eux-mêmes soulignent ça déjà. Ils mettent en garde contre ceux qui disent « Ils soignent à la légère la blessure de mon peuple, tout ira bien, disent-ils, et rien ne va. » Donc ce n'est pas une bonne manière d'être un ami d'Israël que de dire que tout ce qu'ils font, c'est bien. Et porte le sceau de Dieu. Notre loyauté ultime en tant que chrétien ne doit pas être avec l'un ou l'autre des camps qui s'opposent, mais c'est de juger les actes des uns et des autres à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec nous ou avec nos adversaires? Il dit non. Dieu n'est pas uniquement le Dieu d'Israël. Et dans l'histoire d'Israël, Israël est appelé à être une bénédiction pour toutes les nations. C'est ça que Dieu vise. Et on pourrait continuer encore longuement. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire « Chez nous, on est de gauche, de père en fils. » D'accord. Mais je me demande si un chrétien pourrait dire une chose pareille. Dieu est-il de gauche? De droite? Je trouve que là encore, la question montre que la question est bête. Or, notre loyauté doit être avec Dieu. Et plutôt que de choisir nos camps, nous devons soumettre les actes de nos hommes politiques et de nos femmes politiques à la lumière de l'Écriture, au creuset de la parole de Dieu. Et certaines idées de la gauche y trouvent un écho. Je trouve que lorsque la gauche exprime, par exemple, son souci du faible, du laisser pour compte, c'est quelque chose qui résonne avec les textes bibliques. Et on pourrait sans doute en dire autant pour certaines idées de la droite. Notre loyauté suprême doit être avec Dieu. Et notre soutien des idées des uns et des autres ne saurait jamais être inconditionnel, aveugle, de père en fils. Il doit être conditionnel, lucide et au cas par cas. Est-ce que tu es avec nous ou avec nos adversaires ? Il dit non. Mais toi, est-ce que tu es dans mon camp? Voyez-vous, si nous mettons Dieu dans notre camp, nous le réduisons. Nous faisons de Dieu un Dieu de poche, quelqu'un qui rentre dans notre camp. Autrement dit, nous devenons isolâtres. Notre Dieu n'est plus le Dieu de l'Écriture. C'est une caricature détestable. J'espère que vous l'avez compris, je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas prendre parti dans des situations concrètes. Que nous ne pouvons pas être baptistes, ou catholiques, ou coptes, pro-israéliens ou pro-palestiniens, de droite ou de gauche, ou que sais-je encore. Et parfois, on choisit même par son camp, on est dedans. Vous naissez bourgeois ou prolétaire, vous naissez français ou allemand, et ainsi de suite. Et je ne dis pas non plus que tous les camps se valent, loin de là. Mais l'important, j'espère que vous l'avez compris, l'important in fine, ce n'est pas nos camps. L'important, c'est que notre loyauté se loge en Dieu. Dieu est au-dessus des camps. Et plutôt que de l'embrigader dans notre camp, jugeons notre camp à sa lumière, à la lumière de sa parole. Et si la fidélité à Dieu nous oblige à sortir de notre camp, suivons l'exemple de Rahab, car c'est cette confiance en Dieu et cette obéissance à sa parole qui mène à la vie et qui sauve de la destruction.